Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Ce dimanche, dit de laetare, en un seul mot, du latin qui veut dire « réjouis-toi », le premier mot de l'antienne d'ouverture de ce dimanche, « Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, soyez dans le bonheur et la joie, vous qui étiez dans la tristesse, oui, soyez plein d'allégresse, et en son sein, celui de Jérusalem, venez puiser à satiété votre consolation. » Ce dimanche, ce n'est pas le dimanche de la joie, comme on le présente souvent, comme il y a le dimanche de la santé, le dimanche de prière pour les vocations, et tant d'autres dimanches spécifiques dans l'année. Ce dimanche est avant tout le quatrième dimanche du carême, temps singulier de notre année durant lequel, pendant 40 jours, Dieu éduque, enseigne, fortifie et sanctifie son peuple, et le prépare à faire mémoire, c'est-à-dire à actualiser de nouveau pour nous aujourd'hui l'heure du salut, à savoir la mort, la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, que l'évangile de ce dimanche nous remet devant les yeux. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, sous-entendu élevé sur la croix, afin qu'en lui, tout homme qui croit, et la vie éternelle. Au cours de ces quasiment 7 semaines de carême, de jour en jour, de dimanche en dimanche, l'Église nous oriente sur la manière dont nous pouvons vivre ce temps de pénitence et de conversion. Et c'est donc au cœur de ce chemin qu'arrive ce quatrième dimanche, qui a la tonalité effectivement joyeuse, nous invite à la fois à une légère inflexion, mais nous offre aussi une direction. Une inflexion d'abord, car nous avons passé la mi-carême, c'était jeudi dernier, peut-être l'avez-vous fêté, et comme dans tout effort, il y a besoin comme d'une relâche, comme un replat entre deux ascensions en montagne donne l'occasion de couper son effort pour reprendre son souffle. L'Église sait que le temps du carême est intense et nous offre en ce dimanche comme un temps de pause. Cela se manifeste, je le disais au début de notre Eucharistie, par les ornements roses qui viennent atténuer le violet de la pénitence, aussi par la possibilité laissée de pouvoir orner exceptionnellement le sanctuaire de fleurs et aussi de faire sonner l'orgue et les autres instruments en dehors de l'accompagnement des chants. Mais à cette inflexion, à cette respiration qu'est ce quatrième dimanche, et c'en est une réellement, il y a aussi une direction qui qui nous est offerte. Une orientation pour la suite de notre carême. Nous sommes invités à nous réjouir parce qu'il nous reste encore 21 jours pour nous préparer à célébrer la fête de Pâques. Et parce que ces 21 jours, qui demeureront des jours de pénitence, de jeûne, de prière, d'aumône, de partage, nous avons à les affronter résolument, et ils vont même s'intensifier de jour en jour et de dimanche en dimanche pour nous conduire à la joie du salut et à goûter de nouveau dans la fête de Pâques l'immense miséricorde de Dieu dont nous parlent les lectures de ce dimanche et particulièrement saint Paul. Alors chaque année, quand arrive ce dimanche, on se redemande un peu, mais quelle est cette joie à laquelle nous sommes appelés? Et comment vivre de cette joie? Tous ici ce matin, nous avons des raisons qui pourraient nous laisser consumer par la tristesse. Le chômage, la désillusion vis-à-vis de la société, la déception sur l'Église, le deuil, les disputes, les maladies, la souffrance, la solitude, la difficulté à aimer et à être aimé, et les préoccupations en tout genre. Comment ne pas penser aussi en ce dimanche à nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte, d'Arménie, du Nigeria et de partout ailleurs dans le monde qui, allant à la messe aujourd'hui, entendront comme nous ces lectures et ces appels intempestifs à la joie. N'y aurait-il pas là comme une insolence divine à promettre la joie à ses enfants que les tristesses de ce temps accablent parfois lourdement? Les lectures de ce jour se font l'écho de la consolation libératrice que le Seigneur est venu offrir. Lui qui, dans le long discours à ses disciples, entre le lavement des pieds et sa passion, leur dit « Je vous ai dit cela, de garder ses commandements, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Oui, la perfection de la joie se trouve dans les paroles et dans la vie de Jésus, qui est la parole de Dieu. Or, plusieurs fois dans l'Évangile, il nous apparaît que Jésus est triste. À Gethsémani, nous l'entendrons dans les récits de la Passion, « Mon âme est triste à en mourir », dit-il. Lorsqu'il pleure sur son ami Lazare, ou encore quand il semble se désoler de ses disciples qui peinent à lui faire toute confiance. Ainsi, à cette lumière et à la lumière des autres lectures de ce jour, nous pouvons dire que pour nous, chrétiens, le contraire de la joie, ce n'est pas la tristesse. Mais le contraire de la joie, ainsi que nous l'avons chanté dans le psaume, c'est la perte du souvenir de Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, c'est-à-dire que je ne puisse plus parler, si je perds ton souvenir, Jérusalem, c'est-à-dire le lieu où Dieu réside dans son temple. La première lecture du deuxième livre des Chroniques nous alerte sur trois attitudes qui nous coupent de la joie parce qu'elles nous coupent du souvenir de Dieu et de ses actions, la dérision, le mépris et la moquerie. Nous entendions tout à l'heure « Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, mais eux tournaient en dérision, les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, celles de Dieu, et se moquaient des prophètes. » Chaque fois que nous tournons en dérision notre Dieu, notre foi, ou les méprisons, ou nous en moquons, nous laissons parfois, sans même le savoir, la tristesse nous envahir parce qu'elle nous coupe des mémoires des bienfaits de Dieu. Chaque fois que, parfois seulement intérieurement, nous tournons en dérision tel aspect de notre foi, que nous méprisons telle attitude ou que nous nous moquons de nos frères, alors toujours la tristesse du péché s'insinue et en nous éloignant de Dieu, et de nos frères et sœurs nous plonge dans l'amertume parce que nous oublions la dignité de toute personne et son amour du Seigneur pour elle. Et puis il y a la lettre de saint Paul, dans la continuité de la première lecture, qui nous dépeint la patience de Dieu malgré l'entêtement de son peuple à s'en détourner, qui nous montre aussi tout ce qui nous causera l'oubli de Dieu et nous privera de la joie, l'oubli de la richesse de la miséricorde divine, l'oubli que nous étions des morts par suite de nos fautes et que lui nous a donné la vie avec le Christ, l'oubli que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, l'oubli que nous sommes créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées pour que nous les pratiquions. Et l'Évangile, dans cette même continuité, nous redonne aussi les raisons fondamentales de la joie chrétienne. Nous sommes des sauvés, des miraculés. Et la cause de notre joie n'est pas tant dans le salut que dans le Sauveur. Nous avons été sauvés par un Dieu qui s'est existentiellement engagé pour nous sauver, en allant jusqu'à mourir sur la croix. Lui qui était Dieu de condition divine, comme l'écrit saint Paul dans une autre lettre aux Philippiens, il n'a pas retenu bon de garder sa dignité, mais il s'est anéanti. Nous devrions parfois savoir en pleurer de honte et de joie. Alors, accompagnés particulièrement par saint Joseph en ce mois de mars, demandons la grâce de ne pas perdre la mémoire de Dieu, le souvenir de Dieu et de son salut à nous offert, dont nous faisons mémoire dans chaque Eucharistie et de manière toute particulière dans les fêtes de Pâques qui approchent. Cessons de vivre en damnés alors que nous sommes des sauvés. Peut-être pourrons-nous tout au long de cette semaine murmurer en nous à chaque instant ce verset du psaume 50 « Rends-moi, Seigneur, la joie d'être sauvé. Oui, rends, Seigneur, à ton Église et à chacun de nous la joie d'être sauvé et de vivre en sauvé. Rends-moi, Seigneur, la joie d'être sauvé. »